L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Oui, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Oui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde, du pain
de beurre, de petits oignons. Un jour, quelle qu'en soit la raison, on commence à regarder dans les yeux les églises romanes, la boulangère, la condition humaine et les oiseaux des haies. Un jour, on prête attention, on tend l'oreille et on entend la musique du monde. C'est alors qu'on ressent le besoin d'aller au-devant d'elle. C'est alors qu'on voyage. Ce voyage, certains choisissent de le faire à vélo.
Tu m'as dit très tendrement, je connais une femme, il était une fois. Ils eurent beaucoup d'enfants, et nous en aurons 12 épouse-moi. Belle, tu me tues avec ces mots-là. Allez, va, je te salue. Tiens, connais-tu ce refrain-là?
Bienvenue dans l'Épluche Livre. Nous recevons aujourd'hui Mathieu Lifschitz, directeur artistique du magazine 200 et co-auteur aux éditions Ulmer du titre Parté. Bonjour Monsieur Lifschitz.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Plutôt bien.
Plutôt bien. Alors vous êtes à distance, donc vous n'êtes pas présent dans le studio. Aussi, j'espère que, que le dialogue se passera de manière la plus fluide possible.
J'espère également,
ouais.
Tout devrait bien se passer.
Oui, merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, comme je le spécifiais en introduction, vous êtes directeur artistique, donc vous travaillez pour un magazine spécialisé dans le vélo. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le magazine 200 ?
Absolument, c'est un magazine spécialisé dans le vélo, c'est un magazine de récits d'aventure, particulièrement à vélo. C'est un magazine qui existe depuis maintenant un tout petit peu plus de 10 ans. À l'origine, c'est Alain Puiseux qui l'avait créé en solo. C'est un homme qui vient de l'univers de la presse, du journalisme, et qui avait à cœur de raconter des histoires et les siennes et celles des autres au travers de récits d'aventure. Et je l'ai rejoint très rapidement au bout de 2 ans, d'abord en tant que strictement directeur artistique, donc de m'occuper de la maquette, et rapidement tout ça a pris une ampleur que je n'aurais pas soupçonnée, et de prendre part plus au magazine par la rédaction, par la photographie. Donc c'est une direction artistique qui va au-delà strictement de la maquette. Nous sommes publiés, jusqu'à présent on était publiés de manière trimestrielle, mais à partir de janvier 2026, donc quasiment le mois prochain pour ainsi dire, nous passerons en bimestriel, donc un rendez-vous deux fois par mois, une fois tous les 2 mois, excusez-moi, en kiosque principalement.
Très bien. Donc, comme vous le savez, cette émission s'intéresse au livre, au monde du livre, et en particulier cette année donc à la création artistique. Et donc vous êtes de métier directeur artistique. En quoi ça consiste exactement?
Ça consiste à déjà donner forme aux mots et j'allais dire aux images, même si elles le sont par nature, mais donner forme à des récits. Je récupère en fait des textes, des photos, et je mélange le tout comme dans une potion magique pour essayer d'en sortir quelque chose de digeste, avec un fil conducteur que le lecteur puisse se transposer dans l'histoire. Et ça, il faut tenir ce fil, l'équilibrer, en tout cas, lui donner du rythme tout au long d'un magazine avec des histoires et des aventures forcément un peu disjointe. Parfois, c'est un récit d'un voyage. Parfois, c'est une aventure humaine. Le vélo n'étant qu'un prétexte en fait pour raconter des histoires, donc il faut arriver à tenir ce fil. Donc principalement récupérer les éléments et mettre en forme tout ça.
Très bien.
Ça, c'est principalement la direction artistique.
D'accord. C'est un métier que vous exercez depuis toujours ?
Depuis quasiment toujours, oui. Oui. Après quelques années d'égarement scolaire très jeune, quand j'ai finalement repris mes études, c'était pour étudier le design graphique. Et j'ai toujours exercé ce métier depuis mes 25 ans, en ayant 50 cette année.
D'accord, très bien. Donc une belle histoire, une belle carrière. vous avez participé donc à l'édition d'un livre aux éditions Ulmer qui s'intitule « Partez, le vélo autrement ». De quoi s'agit-il ?
Comme je vous le disais, notre magazine est un magazine de récits et non un magazine d'actualité ou qui ferait des reports de courses, on va dire grand public et professionnel. Ça ne fait pas du tout. Donc, axé sur cet angle du récit, c'est un peu naturellement que la Maison Ulmer s'est approchée de nous. Et nos 10 ans, l'année dernière, arrivant à grands pas, on s'est tous dit d'une manière commune que ça serait une bonne idée de faire une rétrospective de... non pas forcément les meilleurs, car en 10 ans, on a nombre de récits, mais en tout cas, faire une sélection de certains de nos récits pour créer un premier volume, pour ainsi dire. Et l'intention était vraiment de faire comme cette espèce de compilation, et elle se prêtait vraiment très bien au format du livre.
C'est très intéressant ce que vous expliquez ici. Donc c'est la maison d'édition Ulmer qui est venue vous démarcher dans ce projet. C'est elle qui est à l'initiative de cet ouvrage ?
Les sous-mains de l'édition sont faits de telle manière que, en fait, on connaissait une des éditrices de chez Ulmer qui était dans une autre maison d'édition précédemment.
D'accord.
Et avec un de mes associés, car nous sommes 4 associés dans la maison d'édition qui édite le magazine, nous sommes 4, et avec un de mes associés, François Paoletti, nous avions eu l'occasion, indépendamment du magazine, de faire des livres dans une autre maison d'édition. Et lui à l'écriture, moi à la direction artistique, des livres également autour du vélo, un qui s'appelait Monument du cyclisme et un autre qui s'appelait Miroir du Tour. Et donc par les jeux de connaissances de maisons d'édition et d'éditeurs et d'éditrices, en gardant le contact, la discussion en fait s'est jamais rompue et le jour est venu.
D'accord, très bien. Et ça vous a emballé comme projet ? C'est quelque chose qui vous a paru naturel à faire, qui a été au contraire peut-être très différent de votre travail habituel pour le magazine ?
Alors, différent oui, naturel oui, les deux en même temps. Disons que c'est ça donnait... Le magazine est un produit populaire, c'est un objet qui est populaire. Il vaut peu cher, il est en vente à 7,90€, c'est qu'il y a un objet très malléable. Donc j'irai pas jusqu'à dire que ce n'est pas précieux, mais le livre, on allait sur autre chose avec un choix de papier sérieux, soigné. Ça nous donnait l'occasion de délier la maquette. Quand j'appelle délier la maquette, c'est lui donner parfois plus d'espace que dans un magazine où on est contraint par un nombre de pages, où on voudrait absolument faire rentrer un maximum d'informations pour nos lecteurs. Le livre permet un temps de une prise en main, une pause, une lecture qui est différente. Donc en fait, ça nous donnait l'occasion de réinterpréter nos articles, non pas en les réécrivant, mais en déliant justement la pagination, en l'aérant en quelque sorte. Tout cela sur un papier plus noble, donc donner plus d'impact à la photographie, qui me tient également très à cœur, et de pouvoir aussi, parfois sur des articles qui avaient quelques années, resélectionner certaines photos, faire quelques inédits, en termes photographiques, encore une fois, pas au niveau du texte, qui sont restés vraiment intégralement tels quels. Donc en fait, c'était très enthousiasmant de pouvoir donner une sorte de valeur ajoutée, quelque chose de... qu'on garderait plus pour la collection, pour ceux qui connaissaient déjà nos articles, et pour les lecteurs qui nous découvriraient ou qui rattraperaient une sorte de retard à cette occasion. C'est vraiment un temps de lecture qui est je dirais pas plus immersif, mais plus, plus intime. Mmh.
Je rebondis sur le livre en tant qu'objet. Donc vous parliez du papier. Là, je constate que sont indiqués sur, sur la dernière page de l'ouvrage, juste avant la troisième de couve, que le papier intérieur est composé à 100% de fibres certifiées FSC, donc qui est un label certifiant que le papier provient de forêts gérées durablement, qu'il y a des encres végétales et que le format de papier est optimisé, c'est-à-dire qu'on évite la gâche au tirage. Ça, c'est un choix de la maison. C'est quelque chose que vous supportez aussi en tant qu'auteur, que co-auteur de cet ouvrage ?
C'est un impératif chez nous. On est par nature extrêmement sensible à tous ces aspects. Et que ça soit pour cette édition, pour notre magazine, mais même encore plus loin pour nos produits dérivés, on va dire, que ce soit des t-shirts ou autres, on fait extrêmement attention à sourcer nos matériaux. Donc pour le livre, ça l'était. Pour notre magazine, ça l'est également. Quand on fait des t-shirts, plutôt que d'acheter un t-shirt qui n'a simplement que le label biosourcé, mais qui veut tout dire et rien dire, on peut être biosourcé et être tissé au Bangladesh. On a été sourcé des fabricants qui tissent en France. Nos imprimeurs impriment pour la très grande partie en France. Alors malheureusement, le marché du papier fait qu'on ne peut pas choisir toujours d'où vient précisément le papier. Il vient généralement de forêts européennes, mais c'est au moins, on essaye de gérer au maximum de ce qu'on peut faire avec, avec nos moyens. Donc cet aspect était totalement volontaire et surtout impératif. On ne l'aurait pas fait autrement.
D'accord. Je vois aussi que l'ouvrage a été imprimé en Italie, donc ce qui est quand même plutôt vertueux et qui ça rejoint complètement votre démarche.
Exactement. Pour le magazine, c'est en revanche, c'est en France, à Mordac, dans le Pas-de-Calais, pour être plus, encore plus précis. Donc on essaye de rester dans un pour tous nos produits, nos objets, on essaye de rester dans un cercle pas trop éloigné pour tout un tas de raisons plutôt évidentes.
Très bien. Dernière petite question avant notre pause musicale. Je suppose que vous-même aimez faire du vélo.
Je vous ai pas très bien entendu,
pardon,
pour être honnête.
Les petits... La distance. Est-ce que vous-même pratiquez le vélo ? Est-ce que vous aimez faire du vélo ?
Je dirais même que... Alors, c'est peut-être pas compulsif parce que c'est assumé, mais oui, je le pratique de manière totalement assidue et c'est absolument pas le vélo qui... Enfin, le métier de design graphique qui m'a amené au vélo, c'est je faisais du j'ai toujours fait du vélo, c'est une vraie passion plus que dévorante.
Et j'ai été interpellée par une des petites histoires de votre ouvrage Partez le vélo autrement. On s'imagine, quand on parle de vélo, qu'il faut être très sportif, qu'il faut être très fin, qu'il faut être avoir vraiment un corps presque de rêve idéal, voilà, tout en finesse et ce depuis toujours. Or, il y a plusieurs témoignages qui contredisent ce cliché. Donc, est-ce que vous me rejoignez sur le fait que finalement le vélo, c'est pas uniquement pour les grands blonds très sveltes, mais non, en fait finalement pour tout le monde?
Ouais, non, ça c'est un mythe. C'est vraiment un mythe. Il y a l'image que on va dire des médias traditionnels ou plus simplement en allumant sa télé que l'on peut voir du cyclisme ou d'une certaine idée du sport. La réalité est bien loin de tout ça. Alors évidemment que le avoir une activité sportive entretient, mais on va dire que le temps ou nos habitudes, notre hygiène de vie, parfois est pas aussi ascétique qu'un athlète. L'athlète, c'est son métier ou alors c'est une vraie volonté d'avoir un idéal de fitness. Je sais pas. Enfin ça c'est chacun ses passions.
Oui, ça reste une histoire personnelle.
Mais en fait non, on peut pratiquer le vélo avec un aspect physique extrêmement large et on est enfin. Je réfléchis en même temps parce qu'en fait c'est étonnant de voir parfois certains profils et qui peuvent être vraiment des durs à cuire, hommes comme femmes. Hein, il n'y a aucune vraiment aucune différence, aucune hiérarchie de genre là-dedans. Il y a vraiment tout genre, tout physique. Ça se joue énormément. C'est un sport qui se joue énormément au mental, en fait. Le moteur numéro un du vélo, plus qu'une forme athlétique, c'est l'envie, c'est le désir de se mouvoir, c'est une certaine curiosité. Le moteur d'aller de l'avant va plus loin qu'un fitness, en fait. Et ceux qui recherchent le fitness sont plus dans une quête de performance, de compétition.
C'est parce que l'image que vous proposez ou que vous véhiculez, du moins dans votre magazine ni dans votre livre.
Nous, non. Et le vélo est bien plus vaste, plus large que ça, en fait. C'est, la partie athlétique et compétitive n'est vraiment qu'une petite partie de ce qu'est le vélo en tant que sport, en tant que voyage, en tant que tout un tas de choses.
Oui. Je laisse nos auditeurs découvrir le morceau musical que vous avez choisi pour cette émission. Oui. Les Pluches Livres. Nous recevons aujourd'hui Mathieu Lifschitz, directeur artistique du magazine 200. Et je le rappelle, co-auteur aux éditions Ulmer du titre Partez, le vélo autrement. Donc nous venons d'écouter un morceau choisi par notre invité. Pourquoi ce titre, Monsieur Lifschitz?
Parce que que c'est déjà un morceau que j'écoute souvent sur la route. J'ai un casque audio ouvert, donc qui permet d'entendre les bruits de la route et de pouvoir écouter la musique, une sorte d'autoradio pour cycliste.
D'accord.
Et comme la musique est également une passion, j'écoute énormément de musique sur la route et ce morceau me rappelle tout un tas d'aventures. Je le trouve hypnotique et empreint d'une certaine mélancolie qui tout en montée et qui représente bien pour moi l'idée d'une grande traversée en fait. J'ai notamment traversé plusieurs fois l'Europe lors d'épreuves de longue distance qu'on appelle les transcontinentales. Mmh. Et c'est un morceau qui pour moi m'évoque justement ce passage d'un Occident bien confortable et calme, entre guillemets, jusque les fins fonds des Balkans, et avec un tumulte bien plus important que chez nous, mmh. et toute cette montée qu'il y a progressive vers une sorte d'idéal ou d'un lieu fantasmé. Ce morceau, pour moi, résume assez bien. Alors, c'est très personnel, peut-être que je le romance beaucoup, mais c'est ce qui m'évoque.
Très bien, c'est une très belle interprétation. Donc, je rappelle simplement, le titre du morceau, c'est Cyrus et le groupe Bonobo, c'est bien ça ?
Oui, c'est c'est un artiste, c'est un garçon tout seul.
Un garçon
Bonobo.
Tout seul ?
Oui, oui.
Je ne connaissais pas, merci beaucoup en tout cas pour cette découverte et pour cette belle interprétation poétique. Donc, vous faites du vélo en musique, mais est-ce que vous travaillez aussi en musique ?
Oui. La musique est omniprésente dans mon univers, qu'il soit de professionnel, de loisir. La musique est permanente. Entre musique et documentaire, il y a toujours quelque chose qui tourne. Je dois avouer que je suis rarement dans le silence, sauf que quand même si à vélo on alterne. J'écoute de la musique et il y a quand même des moments de silence. Il faut pas exagérer, mais voilà, à la limite, on va dire le silence, il est qu'à vélo quand je mets sur pause.
D'accord. Quand il y a besoin d'écouter justement la musique du monde. C'est bien
exactement.
Ça.
Exactement.
Il y a énormément de poésie d'ailleurs dans l'ouvrage Partez. Je me suis permise donc de lire une partie de l'introduction de votre livre pour l'introduction de cette émission. Donc c'est vrai que ça peut paraître étrange, un livre qui parle de vélo, qui raconte des aventures de vélo, donc qui va donner aussi, il y a tout un aspect pratique dans cet ouvrage, je vous laisserai développer après, hein, vous me contredirez s'il faut, il y a tout un aspect vraiment pratique si on veut vivre, nous en tant que lecteurs, ces aventures de cyclisme, et il y a tout un aspect poétique, tout un aspect d'aventure humaine. Est-ce qu'il y a une histoire qui vous a ému particulièrement parmi celles que vous avez sélectionnées pour l'ouvrage ?
C'est les choix impossibles.
Je me doute.
Elles sont toutes, chaque aventure est par nature assez singulière, donc c'est très difficile après de les niveler. Mais s'il faut en choisir une, je me mouillerai pas trop en choisissant la dernière, par exemple, mm-hmm. On est pas, parce qu'elle est collégiale, et certaines aventures sont solitaires, particulièrement dans le magazine, moins dans le livre, mais parfois on part seul avec un appareil photo en bandoulière et le photographe et lui-même la rédaction, parfois, et ça fait partie des moments les plus peut-être les plus joyeux, on part en bande. Et cette dernière, c'est un article qui s'appelle « Toi, tu creuses ». Et comme on n'est pas un Calembour près, on est parti de la Creuse et nous nous sommes dirigés vers le cimetière de Sadil en Espagne, qui n'a rien d'un vrai cimetière. C'est le cimetière qui est en fait le lieu de tournage de la Bon, la Brute et le Truand. Mm-hmm. Et c'est un faux cimetière en fait qui est qui est entretenu par des fans, tout simplement. Et c'est un endroit vraiment très très marrant. Et on y est parti donc avec Alain Puiseux, qui est le fondateur historique du magazine, François Paoletti, qui est notre rédacteur en chef, et Jérémy Couston, qui est un très bon copain à nous, qui est journaliste critique de cinéma à Télérama, donc qui était spécialisé dans le western. Donc c'était quand même un bon soutien pour nous. Et on est parti à quatre, et c'est toujours des moments dont on se souvient, puisque c'est pas un secret qu'on aime bien vivre, bien rigoler, et ces voyages en bande ont toujours un souvenir particulier.
D'accord. Alors, c'est un voyage dont vous faites le récit, donc effectivement, dont toi tu creuses, et si nous... Demain, on veut prendre le vélo et faire les 800 km et des poussières. C'est possible et on peut avoir toutes les indications qu'il faut dans votre ouvrage ?
Absolument. On a mis à disposition, via les techniques modernes, c'est-à-dire en flashant un QR code, on peut accéder en fait à la carte détaillée et être strictement dans nos roues. C'est un principe qu'on essaie de reprendre autant que possible dans les pages du magazine, mais systématiquement dans les articles du livre. Oui. Et où on met vraiment à disposition de nos lecteurs tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent refaire exactement le même trajet.
Ça, c'est super. Enfin, je trouve que c'est une raison de plus de lire ces belles aventures humaines. Comment, justement...
Ça nous arrive régulièrement d'avoir des retours des lecteurs, justement. C'est vraiment pas juste une lubie de le faire. On le fait avec d'autant plus de plaisir quand on reçoit régulièrement des mails ou alors des retours en direct quand on est sur des salons, comme on en fait quand même régulièrement, de lecteurs qui viennent nous voir, qui nous ont dit qu'ils ont fait ceci, cela, ou qui nous envoient des photos. Et donc c'est vraiment extrêmement gratifiant, en fait, de mettre à disposition. Ce n'est pas qu'un outil, c'est vraiment un vecteur d'échange.
Et justement, pour terminer cette émission, en 2-3 minutes, est-ce que vous pouvez nous synthétiser le processus de récolte de toutes ces histoires ? Parce que là, vous êtes vraiment... est-ce que vous-même, vous partez sur les chemins et vous récoltez les aventures ? Est-ce que ces aventures viennent à vous comme si des textes étaient soumis à une maison d'édition ?
La grande majorité des articles sont des créations originales.
D'accord.
On a tout un processus de réunions hebdomadaires qui sont différenciées sur certains sujets et pour justement inventer de toutes pièces des histoires. C'est d'ailleurs ce qui a fait notre singularité, qui a fait qu'on a trouvé un public, car les histoires nous tombent rarement du ciel. Ça peut arriver, on reste ouvert, on a également un protocole de comité de rédaction, on étudie des propositions venues de l'extérieur, on peut faire travailler des pigistes, ça c'est évidemment le cas, mais la grande majorité reste des envies propres à la rédaction.
D'accord.
Qui naissent, que ce soit sur un coin de comptoir, elles peuvent naître au milieu de la nuit, elles peuvent naître sur un malentendu en discutant entre nous, on part d'une idée, on en arrive à totalement une autre. Enfin, il y a une multitude de canaux possibles pour inventer des histoires, mais notre singularité, c'est de créer nos propres aventures et de partir nous-mêmes. On se limite pas qu'à la rédaction, c'est-à-dire nous quatre. Quand on a décidé d'une aventure, après, on réfléchit avec qui y partir. Est-ce qu'on y part qu'entre nous ? Parce qu'il est parfois difficile d'aller faire un sport d'extérieur, c'est être soumis à un calendrier, à de la météo, à tout un tas de paramètres, où parfois nos amis ne peuvent pas se libérer, tout simplement. Mais quand on le peut, quand c'est possible, on emmène très volontiers des amis avec nous pour agrémenter tout ça. Mais voilà, ce sont des créations originales pour la très grande majorité.
Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Lifshitz. Merci pour cette participation et pour nous avoir fait découvrir un processus créatif très différent de ceux que nous explorons d'habitude.
Je vous remercie.
Merci encore. Je remercie aussi nos auditeurs fidèles et certainement nombreux. On est les espère nombreux. Et à bientôt, donc, sur L'Épluche Libre.
Au revoir.
Au revoir.
L'Épluche Libre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange des cornichons, de la moutarde, du pain du beurre.